À l'heure où le Conseil de sécurité de l'ONU se penche aujourd'hui sur l'épidémie d'Ebola, la situation actuelle d'Ebola en RDC, selon le ministère de la Santé, se présente comme suit. Sur les 66 cas, 39 décès sont enregistrés, dont 8 personnels de santé. Entre-temps, en Afrique de l'Ouest, l'ONU a affirmé à Genève que près d'un milliard de dollars sont nécessaires pour lutter contre Ebola. Les Nations Unies avancent le chiffre de 20 000 cas possibles d'ici la fin 2014. Comment analyser cette situation et que faut-il pour lutter efficacement contre le virus Ebola en Afrique? C'est notre thème de ce soir. Pour en parler, je reçois Dr Roland Lomami-Chaudou, conseiller médical du ministre de la Santé publique. Dr Chaudou, bonsoir.
Bonsoir.
Dr Léon Moubikaï, député national, il est membre de l'UDPS, parti de l'opposition et spécialiste en santé publique. Dr Moubikaï, bonsoir.
Bonsoir.
Docteur Richard Moukalengue, spécialiste en santé publique. Bonsoir, docteur.
Bonsoir, Ali.
Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Avant de parler du bilan actualisé, je vous prie, docteur Chaudou, docteur Richard et docteur Moubikaï, nous allons faire un petit tour en province orientale, à Issangui, où la société civile est préoccupée par la vente clandestine de viande de chauve-souris. Pendant cette période d'alerte contre le virus hémorragique d'Ebola, elle a exprimé ce mercredi, à l'issue d'un échange avec les autorités médicales, sur les risques de contamination au virus Ebola dans ce territoire. Joseph Bassaï.
Les chasseurs et vendeuses des viandes des chauves-souris circulent malignement avec ces viandes dans les quartiers. Selon les sources locales, ils opèrent en dissimulant cette viande dans les paniers des poissons boucanés. Les étalages dans les marchés, affirment ces sources, leur servent aussi de cachettes. Les marchandages avec les clients se passent de bouche à l'oreille. Pour la société civile, cette situation expose les habitants du territoire d'Issangui au risque de contamination. Selon les médecins chefs des zones de santé, la manipulation et la consommation de cette viande sont interdites pendant cette période. D'après Dr Charles Lubanga, le territoire d'Issangui est l'une des entités à haut risque à Ebola. La cause, explique-t-il, la proximité avec la zone épidémique. Docteur Charles Lubanga.
Au niveau de la province, on nous a mis en alerte pour plusieurs raisons. La première raison est que le district de la Chouapa, à l'équateur, là, où sévit l'épidémie, fait frontière avec le district de la Chop. Dans les DPA qu'on a distribués, on leur a dit que chauve-souris, par exemple, les singes, tous les animaux-là qui sont censés être vecteurs du virus d'Ebola, il ne faut pas les consommer pendant cette période ici.
Pour les services de l'environnement, la chasse de tous les animaux de la forêt est suspendue. Selon les chefs de ces services, les contrevenants à cette mesure s'exposent aux poursuites judiciaires. Issangui, Joseph Bassaï, Radio Bondeko pour Radio Okapi.
Merci Joseph Bassaï. Je signale que cette émission a deux parties. Nous allons commencer par faire le point de la situation d'Ebola en RDC et puis en Afrique. Docteur Roland Chaudou Lomami, vous êtes conseiller médical du ministre de la Santé publique. À ce jour, au 18 septembre 2014, quel est le bilan par rapport à Ebola en RDC?
Oui, merci Alain pour cette question. Nous avons à ce jour un rapport venant du terrain qui nous donne 71 cas enregistrés. Ces chiffres, je les publie avec la permission de son Excellence le ministre de la Santé, qui a autorisé qu'on puisse les publier. On est à 71 cas enregistrés jusqu'à ce jour, depuis le début de l'épidémie. De ces cas, il faut compter 27 cas confirmés, c'est-à-dire 27 cas qui ont eu un test laboratoire positif. Nous avons 26 cas qui sont des cas probables et 18 cas qui sont des cas suspects. De ces 71 cas, nous avons eu 40 décès enregistrés, dont 14 ont eu un test positif de laboratoire et 26 qui sont des cas qui sont décédés et qui probablement sont liés à des cas Ebola, donc des cas probables tués ou décédés de suite d'Ebola.
Alors docteur, sans vouloir damer le pion à cet auditeur, nous allons prendre cette question qui nous vient de Goma pour vous.
Merci.
Hiro Mouviri, à partir de Goma, province du Nord Kivu, est-ce que cette montée rapide des cas de contamination à Ebola, à RDC, n'est pas dû à la légèreté dans l'application des mécanismes de lutte mis en place par le gouvernement?
Réaction, docteur Chaudou.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce qu'il n'y a pas d'abord une montée rapide de la contamination, il y a plutôt une éclosion d'une épidémie qui, comme on peut le constater, nous revient chaque 2 ans, à moins qu'on ait un peu de chance pour que ça passe à 3 ans. Nous avons eu la dernière épidémie en 2012 à Isiro, Viadana, et que la région de Viadana est la région d'Isiro. Nous avons cette fois-ci encore en 2014. En 2014, depuis qu'on a déclaré l'épidémie le 24 août, jusqu'à ce jour, nous en sommes seulement à 14 décès, des cas confirmés avec virus Ebola, et nous en sommes à 27 malades qui sont confirmés avec un test Ebola positif. Il n'y a pas de montée rapide, mais il y a une éclosion naturelle de l'épidémie qui est venue cette fois-ci encore par le truchement de mauvaises manipulations des animaux qui sont incriminés dans la transmission Ebola, dont particulièrement le singe.
Et donc, en d'autres termes, l'épidémie est maîtrisée pour ce qui est de la RDC.
Pour ce qui est de notre pays, nous pouvons carrément dire que l'évolution de la riposte que nous avons entreprise au niveau du ministère de la Santé et sous l'impulsion du gouvernement de notre pays est bonne. Elle est très bonne parce que tous les paramètres de lutte sont bien maîtrisés et l'évolution sur le terrain le prouve. Nous sommes à plus ou moins 2 semaines maintenant sans avoir détecté un seul cas positif après différents tests de laboratoire. Et Dieu sait combien d'échantillons avons-nous reçus de différentes alertes à Ebola qui sont survenues dans d'autres provinces de notre pays. Beaucoup d'échantillons sont arrivés au laboratoire national à l'INRB. Ils ont été testés et tous ont été négatifs. La particularité de notre satisfaction est aussi celle-ci que les cas positifs actuels que nous avons enregistrés pendant cette épidémie sont tous venus de l'épicentre de l'épidémie, c'est-à-dire de l'Okolia à Bouéné. Tous les autres échantillons reçus d'autres provinces sont négatifs. Un autre cas, une autre raison de notre satisfaction, c'est l'évolution sur le terrain. Nous avons plus de 28 épidémiologistes sur le terrain qui ratissent tout l'Okolia, tout le secteur de Djira, et qui ratissent tout le territoire de Bouéné. Question de rechercher pratiquement à la loupe les citoyens congolais qui seraient porteurs de ce virus, de sorte qu'on puisse les ramener dans les centres de traitement, les admettre et les suivre, les mettre sous traitement. C'est-à-dire que nous avons un dispositif sur le terrain qui est tout à fait, je dirais, très très bien fait et bien coordonné, au point que nous avons une satisfaction, et d'autant plus que nos indicateurs, pour l'instant, nous montrent que nous sommes déjà sur la pente versante de notre épidémie.
Et donc là, vous venez de citer quelques éléments qui font le succès presque de cette maîtrise de l'épidémie. Vous venez de parler de ces 28 épidémiologistes éparpillés sur terrain. Mais à part ça, est-ce qu'on peut dire du côté de la population qu'elle a bien intériorisé les différentes mesures?
Nous sommes satisfaits du comportement de la population jusqu'à ce jour. À Bouéndé, à Djira, on nous a écoutés. Excusez-moi. On nous écoute très bien. Mais il est survenu ce jour un événement malheureux au niveau de la population de Bouéndé, justement, parce que Bouéndé territoire, la Bouéndé c'était plutôt, a aussi, comment on appelle ça, un centre de traitement Ebola. Et là, il y a eu un décès dans ce centre de traitement, et la population a mal réagi. Nous avons décidé au niveau du comité de coordination nationale de dépêcher assez rapidement les psychologues, sociologues. On va dépêcher aussi d'autres techniciens de la communication pour mieux sensibiliser la population à l'intérêt qu'il y a à laisser le corps médical faire le travail. Parce que cette population a tenu à aller enterrer leurs frères par eux-mêmes, et cela pour nous comporte beaucoup de dangers, beaucoup de risques de contamination.
Alors docteur Chaudou, un mot sur le reportage que nous avons suivi en début d'émission, en ce qui concerne Isangi où la viande de chauve-souris se vend en cachette.
Écoutez, ce qui se passe avec la chauve-souris ou avec le singe, c'est question de manipulation. C'est la question toute entière de la manipulation. Comment vous manipulez et comment vous vous protégez d'une contamination possible en touchant cette viande-là. Nous avions eu, au niveau du secteur de Djira, Son Excellence le ministre de la Santé a interdit la chasse. Et à notre grand plaisir, le gouverneur de la province de l'Équateur a étendu l'interdiction de la chasse à toute la province de l'Équateur. Et à Isang, ici, le gouverneur de la province orientale a pris la même mesure. Nous nous en félicitons, mais nous voulons plutôt que la population comprenne l'intérêt qu'il y a. La chauve-souris, le singe sont des animaux parmi tant d'autres qui ont été reconnus comme étant des animaux vecteurs du virus Ebola. Dans leur corps, dans leur entièreté, le virus Ebola se comporte très bien. Il vit avec eux.
Et donc, il faut s'en méfier.
Il faut s'en méfier.
Voilà. Docteur Léon Moubika, vous êtes député national, membre de l'UDPS, parti de l'opposition et spécialiste en santé publique. Docteur, vous venez de suivre les statistiques actualisées données par Docteur Chaudou. Comment vous analysez la lutte contre Ebola en RDC?
Merci beaucoup pour la question. J'estime que l'action du gouvernement est quand même positive, mais je pense que les statistiques ne doivent pas dire la vérité. Au fait, le secteur de Djera est très enclavé et il n'y a pas moyen d'entrer dans tous les coins et recoins pour savoir exactement quel a été le taux de létalité de cette pathologie. Et puis en plus, cette action du gouvernement est plus ou moins favorisée par cet enclavement. Parce qu'au fait, on a eu des épidémies ouvertes, par exemple à Isiro, qui est un grand centre, et Kikwit, qui est un grand centre où il y a les passages vers Kinshasa et vers le Kassai. Et même l'épidémie de Kalamba dans le Kassai occidental, pratiquement à 15 km de mon village. C'est un coin ouvert. Mais là, nous parlons d'une épidémie qui est dans un coin strictement fermé. Donc, quand vous prenez la carte du pays et que vous voyez, c'est un secteur pratiquement fermé. Et nous avons plus de chances de maîtriser cette épidémie. La nature nous favorise pour maîtriser cette épidémie en dehors de l'effort du gouvernement. Mais nous louons quand même cet effort du gouvernement, que ce soit l'action village par village, que ce soit l'action des désinfections qu'ils ont donné gratuitement. Nous suivons tout ça à la loupe.
Et docteur Léon Moubikaï, vous avez également suivi docteur Chaudou qui pense que la population est quand même en train d'écouter les différents conseils, les différentes mesures en ce qui concerne l'hygiène, la santé et tout. Comment vous comprenez cet aspect?
Oui, il y a un aspect qu'on doit soulever. Ce n'est qu'une maladie, c'est une épidémie liée aussi à la pauvreté. Il y a les chauves-souris qui sont là. Vous pensez que c'est pas facile. Nous devons jouer notre rôle d'éduquer encore la population. Parce que ceux qui voient, c'est la viande. Et ils ne voient pas l'aspect épidémique de la maladie. Donc, je pense qu'il faut qu'on fasse beaucoup d'efforts. On ne doit pas seulement intervenir sur le terrain avec des mesures hygiéniques, mais on doit plus éduquer notre population. Et ça, c'est le rôle des docteurs avec l'équipe qui est sur le terrain. Éduquer suffisamment la population. Il vient de soulever un cas très malheureux. Moi-même, c'est une information pour moi de savoir que la population s'est comportée comme ça, alors que parmi les messages qu'on doit donner est qu'on ne doit pas s'approcher des cadavres et où on doit utiliser toutes les mesures possibles pour ne pas toucher aux cadavres. On connaît comment nos rites se font dans nos villages, on doit caresser les cadavres et tout ça. Et c'est comme ça qu'on doit se contaminer, on doit entretenir l'épidémie.
Alors, docteur Léon Moubikaï, Djera et tous les environs sont en quarantaine. De votre point de vue, comment pensez-vous que ces gens survivent?
En fait, je ne pense pas qu'il y ait des problèmes pour la survie de la population, parce qu'en réalité, ils ne reçoivent presque rien qui vient de dehors. Dans leur vie ordinaire, peut-être un peu de sel et de savon qui peut venir de dehors, mais je crois qu'il y a des mesures prises par le gouvernement pour intervenir et aider la population qui est en quarantaine. Je suppose, parce que je n'ai pas assez de preuves là-dessus.
Et donc, pour vous, le seul élément qui favorise la RDC, qui favorise le succès de l'action du gouvernement, c'est l'enclavement de Djera.
Oui, ça, il faut reconnaître. Et je suis convaincu que le confrère qui est en face de vous va aussi reconnaître ça, parce que ce n'est pas une épidémie ouverte. C'est pas une épidémie ouverte. On devait avoir plus de difficultés de maîtriser l'épidémie de Kikwit. On devait avoir plus de difficultés de maîtriser l'épidémie de Kalamba ou l'épidémie de Siro par rapport à Djera. Parce que le milieu lui-même nous aide déjà à maîtriser l'épidémie, avec l'enclavement qui est là.
Docteur, vous avez suivi, on a suivi en début d'émission le reportage d'Isangi où la viande de chauve-souris est vendue en cachette. Pour vous, qu'est-ce que ça représente?
Difficile à expliquer, mais vous savez, ça c'est seulement la pauvreté qui nous pousse à des choses comme ça. Quand on vous dit que les réservoirs naturels restent la chauve-souris et que vous vous décidez d'aller manger la chauve-souris, vous exposez votre propre vie. Mais je pense aussi que nous avons aussi une responsabilité. Est-ce que l'équipe qui est sur terrain donne suffisamment les messages en rapport avec la viande boucanée d'une façon générale, en rapport avec les singes, en rapport avec les réservoirs naturels même qui est la chauve-souris? Est-ce que les messages passent? Est-ce qu'il y a des messages déjà préétablis? Parce que j'ai entendu les confrères qui disent qu'on va envoyer même les gens responsables de la communication pour intervenir. C'est une très bonne chose, mais qu'on intensifie ça pour que les choses puissent bien marcher. Je crois que c'est le manque d'informations qui est à la base de ça.
Il y a la Banque mondiale, Dr Léon Moubikaï, qui finance la lutte contre Ebola à hauteur de 105 millions de dollars pour endiguer plus rapidement cette épidémie en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone, mais on ne cite pas la RDC. Comment vous analysez ça?
Merci beaucoup pour la question. Vous savez, nous sommes pratiquement, si nous suivons l'historique d'Ebola, nous sommes pratiquement aux environs de notre septième épidémie. Quand vous suivez depuis Yamboukou, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes pratiquement à la septième épidémie. Nous devions être les experts. Nous devions être appelés pour aller maîtriser l'épidémie à l'Ouest. Et je sais que Dr Kebel était là-bas pour ça. Donc, je pense que nous avons atteint un niveau où nous devions être une référence pour maîtriser l'épidémie. Et l'épidémie que nous avons actuellement à l'Équateur, à Djéra, par rapport aux épidémies qui se passent actuellement dans les pays de l'Ouest, je crois qu'ils constituent une priorité. Et nous n'avons pas déclaré que nous sommes dépassés par l'épidémie. Mais j'étais en train de suivre au Libéria, où la déclaration elle-même dit nous sommes abandonnés à nous-mêmes, nous n'avons rien. Alors qu'ici, nous sommes en mesure de maîtriser l'épidémie, nous avons des experts, et nous avons l'expérience des 6 épidémies déjà passées avant.
Merci Dr Léon Moubikaï. Dr Richard Mukalenge, vous êtes spécialiste en santé publique. Docteur, pour vous, comment vous analysez la lutte contre Ebola en RDC?
Merci pour la parole. Pour moi, cette lutte est dans la suite du travail fait par rapport aux épidémies que le pays avait connues. Vous savez qu'un joueur de football, s'il rentre sur le terrain pour la première fois, parfois, il tape mal le pied au ballon. Ok? Mais comme nous avons été plusieurs fois secourés, plusieurs fois devant l'épidémie, maintenant nous avons la maîtrise, nous avons l'ABC de cette lutte. C'est pourquoi nos experts sur le terrain font du bon travail. Ils savent l'ABC de la lutte contre Ebola. Alors, ça c'est un. Deuxièmement, il faut aussi regarder, ils sont entourés avec quoi? Ils sont entourés ou aidés avec quoi? Ça aussi, ça joue dans la prise en charge des malades et dans la conquête de la santé de tous ceux qui sont malades dans le coin. Troisièmement, ils sont appuyés par qui? Lorsque vous avez le ministre de la Santé publique lui-même qui descend sur le terrain, avec les instructions du gouvernement et du président de la République, je crois, le résultat ne peut être que celui que nous sommes en train d'observer. C'est ça. Le grand problème qui se pose, c'est que beaucoup de Congolais se posent la question pourquoi on dit Ebola. Il n'y a pas un autre nom par rapport à cette épidémie. Pourquoi il n'y a pas un autre nom? C'est là où aussi la communication, pour expliquer Ebola, c'est quoi la communauté, pour que tout le monde adhère à cette dynamique de lutte contre Ebola, soit une dynamique à résultat maximal. Okay? Pour moi, je ne peux dire que les équipes congolaises se débrouillent bien sur le terrain, le résultat est là.
Et donc, qu'est-ce que vous pensez de l'observation de Dr Léon Moubikaï qui pense que c'est plus ou moins maîtrisé parce que Djéra est enclavé?
Oui, ça c'est une faveur que la géographie du coin nous donne. Vous savez que cette localité, donc Djera, est effectivement enclavée. On peut bien, avec des mesures de santé publique, clôturer ce coin. C'est ce qu'on a fait. C'est comme quand il y a un problème ici, là où se trouve le studio de Radio Okapi, on dit que personne ne bouge. On peut bien encercler le petit territoire et agir sur ce territoire, tel qu'on voudrait mener des opérations. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cette faveur de la nature, parce que le coin est petit, ne peut pas pousser l'équipe à se dire, bon, la nature est là, nous devons croiser les bras, nous devons laisser tomber les mesures d'hygiène pour endiguer ce mal. Donc, malgré cette faveur naturelle, l'équipe est en train de travailler avec l'ABC de lutte contre cette entité pathologique nouvelle qui est, en fait, la maladie Ebola, qui est en fait une zoonose d'origine virale qui a comme réservoir les animaux sauvage, mais qui atteint l'homme en lui collant cette maladie qui est hémorragique et qui tue. Donc, l'équipe ne se contente pas de la géographie du coin, mais se contente de l'ABC de la lutte.
Alors, Ebola, c'est une épidémie liée à la pauvreté, a dit une fois de plus Dr Léon Moubika. Et vous partagez ce point de vue?
Je ne crois pas à ça. Pourquoi? Parce que il y a eu l'épidémie de Marburg. Ok? Bien que les singes qui avaient contaminé ce laboratoire venaient de l'Afrique, mais c'était dans un monde où les gens sont financièrement nantis. Ok? À Marburg. Donc, la fièvre hémorragique de Marburg n'était pas la fièvre hémorragique des pauvres. C'était la fièvre hémorragique des personnes qui étaient imprudentes dans la manipulation du sang de ces singes-là. Chez nous, si on croit que celui qui est pauvre, c'est celui qui prend le gibier, donc on se fout le doigt dans l'œil. On insulte Dieu parce que Dieu a donné aux Congolais beaucoup de gibier. C'est ça. Donc nous sommes riches en gibier, nous sommes riches en animaux sauvages, mais ce n'est pas un signe de pauvreté. Et d'ailleurs, en écologie animale, on conseille à la population de consommer beaucoup plus de petits bétails, parce que ce sont des animaux qui se multiplient rapidement. Si vous les élevez, vous aurez beaucoup de viande, de protéines animales à mettre sur la table, que des gros bétails du genre vaches, etc. Parce que une vache, sa mise va prendre du temps. Mais les petits rongeurs, les chauves-souris, ceux qui savent les élever, donne rapidement la chair, c'est pas une pauvreté.
Alors docteur Richard, qu'est-ce que vous pouvez dire aux habitants d'Isangi qui nous suivent en ce moment, parce que l'émission est aussi pédagogique. Isangi est très proche de Boende par rapport à l'épidémie. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? On a suivi le reportage.
Oui, par rapport aux mesures prises par les officiels, je crois qu'ils doivent suivre ces mesures. C'est pour l'intérêt de la communauté. Lorsqu'on dit attention à la manipulation des animaux sauvages rencontrés en forêt, des animaux qui sont morts, il faut faire attention, il ne faut pas les toucher. Attention, il faut faire attention aux réservoirs probables. Il faut faire attention pendant un temps et après on va vérifier. Et moi je voudrais que, aussi dans cette danse, que ceux qui font l'écologie animale, tout ce qu'il faut, ceux qui font l'environnement, s'impliquent aussi grandement. Même les zootechniciens, les vétérinaires, ils doivent s'impliquer pour que en dehors de ces animaux sauvages qu'on a pratiquement, entre guillemets, interdits. Merci. Qu'est-ce qu'on peut encore développer comme réflexe pour donner la protéine animale à la population?
Merci. Donc, voilà. Chaudou, votre réaction par rapport à l'enclavement de Djera avant que l'on passe à la deuxième partie?
Oui, merci. Merci pour la parole. Effectivement, Djera est enclavé, mais cela ne peut pas occulter le travail que fait les équipes, que fait l'équipe qui est sur le terrain.
Alors, par rapport à la situation en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone, comment se fait-il que... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça va si vite de ce côté-là? d'après vous?
D'après moi, c'est simplement une question de gestion malheureuse de l'épidémie. Une gestion malheureuse parce que nous avons appris que les équipes ou les foyers initiaux n'ont pas été bien pris en charge dès le départ. Ils ont été laissés pour compte et ils ont été gérés par les gens de la base, dont les officiels de ces lieux-là, comme ils entendaient. C'est simplement au plus fort de la crise que les niveaux nationaux de ces pays se sont intéressés à la chose. Et je crois que c'est dès le départ qu'il faut prendre des mesures pour endiguer une épidémie. Si vous laissez l'épidémie progresser, vous allez courir derrière elle et ça va être difficile de la rattraper. C'est un peu la situation parce que chez nous ici, nous avons un mécanisme qui est mis en place, qui est permanent. Que pendant chaque année, pendant toutes les semaines, chaque vendredi, on s'est réunis pour parler épidémie. Et quand il y a une épidémie qui est déclarée, c'est chaque jour qu'on s'est réunis. Nous avons des équipes bien formées et à la déclaration d'une épidémie, elles descendent sur le terrain et commencent ce qu'ils savent faire pour endiguer dès le départ la progression de cette épidémie.
Alors, les spécialistes congolais qui étaient partis dans ces pays-là, ils sont revenus pour la plupart, mais ils reviennent apparemment au moment où tout va très mal.
Justement, ça pose un problème d'éthique. Notre propre case est en train de brûler et nos spécialistes ont été dehors. Mais ils sont pas rentrés que pour nous aider parce que nous n'en avons pas que eux, on a plusieurs. Mais ils sont rentrés parce qu'ils étaient à terme de leur mission. Ils étaient à terme de leur mission, c'est ainsi qu'ils sont rentrés pour travailler au pays. Nous savons très bien, le docteur Léon l'a si bien dit, nous sommes très bien comportés à l'étranger au point que, même là où nous parlons, présentement, nous sommes inondés par des fortes demandes de ces pays d'Afrique de l'Ouest pour le retour des Congolais dans leur pays, pour continuer à aider à juguler cette épidémie dans leur pays.
Alors, les Nations Unies avancent le chiffre de 20 000 cas possibles d'ici la fin 2014, docteur Chaudou, c'est effrayant.
Effectivement, très effrayant si la gestion continue comme ci. Si elle ne change pas pendant ce temps-ci. Et si les autorités de ces pays ne prennent pas des mesures draconiennes et des mesures spécifiques de lutte contre une épidémie, elle sera dans cette ampleur-là. Je crois que avec les réunions que les différents ministres de la Santé tiennent entre eux, notre ministre est assez, professeur ou didactique à ce point-là pour montrer à ses collègues comment nous, au Congo, faisons la chose et parvenons à maîtriser. Écoutez, on parle de Djera. Djera, c'est vrai, c'est dans la forêt équatoriale, c'est enclavé, mais nous avons eu en 2012, une épidémie en pleine ville d'Isiro. Djera a 53 000 habitants et 4 aires de santé concernées, mais nous avons eu à Isiro une population de plus de 200 000 habitants, une épidémie en 2012. Mais nous n'avons pas eu un seul cas en dehors de cette ville d'Isiro. Nous avons eu dans la région Isiro, mais jamais en dehors de la province orientale. C'est que le travail que font nos équipes sur le terrain est un travail de titan, et chaque équipe sait ce qu'elle doit faire. Parce que nous envoyons des épidémiologistes, des logisticiens, des virologues, des hygiénistes, des gens de laboratoire, des biotechniciens. Nous envoyons des gens qui s'occupent de la gestion du terrain pour mettre notre campement. Donc tout ça travaille en communion et en synergie.
Merci. Pour éradiquer la maladie. Ouais, docteur Léon Moubikaï, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de la province de l'Équateur.
Merci, Mongo Manzongo, étudiant à l'université de Mbandaka. Nous saluons tout d'abord les efforts de l'ONU pour la lutte contre cette épidémie en Afrique. Mais l'essentiel, c'est que ce ne sont pas seulement les organisations internationales qui doivent intervenir pour la lutte contre l'épidémie. Les Africains doivent également lutter en usant des autres techniques préventives ou encore en adoptant les autres mesures préventives pouvant empêcher l'épidémie de se propager.
Réaction, docteur Moubikaï.
Il a pleinement raison, c'est pas seulement l'Occident d'ailleurs, c'est pas une pathologie fréquente là-bas, mais nous, comme je vous disais tout à l'heure, là, nous sommes pratiquement à la 7e épidémie. Si nous sommes arrivés à ce niveau-là pour être suffisamment forts pour aider les autres, nous avons eu au moins aux environs de 1000 malades dans les 6 épidémies que nous avons déjà gérées. En dehors de cette épidémie ici, quand je faisais mon calcul, ça me faisait à peu près 987 malades déjà, avec 77% 5 taux de létalité. et nous sommes suffisamment forts. Quand vous prenez le mot même Ebola, là, c'est une rivière qui n'est pas loin de Yambo. Donc c'est notre pathologie. La première pathologie, la première épidémie a été déclarée en 1976 dans ce pays-ci. Je crois que nous sommes suffisamment outillés pour aller aider les autres. Mais est-ce que faut-il rester chez les autres au moment où votre gaz est en train de brûler? Donc je comprends que c'est normal que nous récupérions nos experts et qu'ils viennent nous aider sur place. Les mesures d'hygiène, comme il est dit, ce sont des bonnes mesures. Mais il faut que la compréhension soit réceptive à ce qu'on leur dit. Comment, au moment où vous êtes en train de vous battre pour maîtriser l'épidémie, il y a des concitoyens qui préfèrent manger la chauve-souris? C'est contradictoire. Où il y a un problème au niveau de la population, où il y a un problème au niveau des messages que nous donnons à cette population pendant que nous vivons l'épidémie.
Alors, docteur Léon Moubikaï, le Conseil de sécurité de l'ONU a organisé ce jeudi à New York une réunion d'urgence pour marquer la mobilisation de la communauté internationale. La communauté internationale, finalement, ne s'est-elle pas réveillée en retard?
Non, je crois que chez nous, avec la surveillance épidémiologique, nous avons appris les définitions opérationnel de certaines pathologies. Moi, je viens de la base, j'étais dans mon village, et j'étais surpris que le médecin inspecteur provincial qui est à Kanan, à plus de 200 km de mon village, me dit « Faites attention, il y a un cas suspect à 15 km dans la Kaluambala où il y avait une autre épidémie. » Seulement, c'est une dame enceinte qui était en train de saigner et qui faisait la diarrhée avec fièvre. Donc, avec la définition opérationnelle, on le considère d'abord comme un cas et on explore sur le plan des laboratoires. Tous ces pays qui sont là aujourd'hui, quand vous parcourez les archives, on connaît les pays qui ont déjà vécu les épidémies d'Ebola. C'est la RDC, c'est le Congo en face, c'est le Gabon, c'est l'Ouganda, c'est le Soudan. Donc, ces pays-là ne savaient même pas qu'il y a la pathologie en soi sur le plan des surveillances épidémiologiques. En fait, ils se sont réveillés au moment où les cas étaient en train de se multiplier et ce sont des milliers ouverts, différents au moins de Djera. Donc, les pays eux-mêmes, les systèmes, même s'ils avaient un bon système, mais s'il n'y avait pas une bonne surveillance, ils se sont réveillés en retard et voilà, l'épidémie est déjà là, en train de se propager et il faut maintenant arrêter ça. Et ils sont partis. Moi, j'apprécie beaucoup cette mobilisation, quoi que ça soit tard. Ce n'est pas de leur faute, ils ont remarqué l'épidémie, ils se sont engagés pour maîtriser ça. Alors, je pense que ce sont les efforts à encourager, parce que j'ai vu le désespoir dans le peuple libérien, j'ai vu un enseignant qui disait « si on nous laisse, c'est un pays qui est en destruction ». J'ai vu des publications de l'ONU qui disaient « même si on maîtrise l'épidémie, sur le plan économique, ça sera un désastre ». Voilà déjà, les gens sont en train de penser déjà à ça. Et je pense qu'il faut les encourager pour qu'on arrête cette épidémie.
Docteur Richard Mukalenge, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient du Maniema.
Docteur Raphaël Ngongo Meonga, j'appelle de Kivu, je suis médecin spécialiste en santé publique. La lutte contre la fièvre hémorragique Ebola doit porter sur la sensibilisation de communautés forestières, la lutte contre la pauvreté et l'affectation des ressources requises pour l'amélioration des conditions d'hygiène hospitalière.
Docteur Richard, appliqué à l'Afrique de l'Ouest, est-ce que ces mesures peuvent aider à améliorer la situation?
Oui, je commence par l'amélioration de l'hygiène en milieu hospitalier. Vous savez que à ce niveau-là, nous avons beaucoup de lacunes. Il n'y a pas longtemps, j'étais en conversation avec des confrères à qui je reprochais notre lassitude dans la formation, par exemple, des balayeurs, dans la formation des filles de salle, etc. Vous savez que ces personnes participent à cause de nous, à la propagation des infections à l'hôpital. J'ai appelé un confrère dans un hôpital, je lui ai dit, passons notre temps, donc c'était à peu près 5 heures de temps, examinons de près le comportement de ces personnes que je viens de citer. Après avoir torchonné le pavement
de X hôpital, ces personnes-là, avec les mains souillées par tout ce qui...
Les différents produits.
Oui. Et ces personnes touchées ont les portes, les poignets, les robinets. Ça, c'est quelle hygiène hospitalière. Et s'il s'agit d'Ebola, elles ont participé à la propagation de cette maladie. C'est à cause de nous. C'est-à-dire, quand je dis nous, c'est-à-dire le corps médical à degré élevé, par exemple les gradués, les docteurs en médecine, etc. Est-ce que vous avez déjà entendu, ici dans le pays, la rencontre entre les médecins, nous sommes censés être au sommet du système de soins de santé, la rencontre des médecins avec les balayeurs pour...
Les sensibiliser.
Oui, non, tirer au clair l'ABC de l'hygiène hospitalière que le balayeur doit appliquer, que la fille de salle doit appliquer. Ça n'existe pas. Il n'y a pas longtemps, je venais d'échanger avec les confrères à propos de dispositifs qu'on est en train de vendre sur le marché contre Ebola. Tout le monde touche le robinet avec les mains pour se nettoyer les mains et après s'être nettoyé les mains, on ferme le robinet avec les mains qu'on vient de nettoyer. Pourquoi ne pas faire la promotion des robinets qu'on peut fermer avec les coudes? C'est aussi une lacune.
Et donc il faut adapter son comportement à...
Mais justement, faire suivre aussi la science. Si on ne fait pas ça, on va échouer dans cette lutte.
Alors docteur, le président américain Barack Obama a annoncé mardi l'envoi de 3000 militaires en Afrique de l'Ouest pour lutter contre l'épidémie de fièvre Ebola. Qu'est-ce que ça peut représenter pour vous?
Mais ça représente ce que moi j'appelle l'éveil sur le plan de la formation des militaires aux États-Unis. Ça me rappelle aussi ma jeunesse. En 64-65, je voyais des timbres postes. Au niveau de ces timbres, je voyais des militaires congolais qui donnaient la bouillie à l'Est. Après que l'homme de Bukavu à l'époque, c'était le général Moulamba, après qu'il ait mis fin aux différentes rébellions qui étaient dans ce coin-là. Donc, notre armée est capable de faire ça. Parce que les ancêtres ou les parents des militaires actuels l'ont fait avec le général Moulamba, etc. Donc, c'est le veille. C'est ce que moi je peux appeler une armée formée pour affronter tout ce qui est problème que je peux appeler des catastrophes et urgences. Donc, l'épidémie d'Ebola qui est en train de sévir dans notre pays, comme en Afrique de l'Ouest, c'est un problème de catastrophe et aussi un problème de l'urgence sur le plan médical.
Docteur Chaudou, voilà. Ne peut-on pas craindre que la montée en puissance de cette épidémie en Afrique de l'Ouest ne puisse nous atteindre ici en RDC?
Justement, nous avons craint ça, nous avons eu cette crainte au départ et nous avons pris toutes les mesures possibles pour freiner l'entrée de cette épidémie, l'importation à travers nos frontières de cette épidémie. C'est au moment où nous étions en train de mettre en place notre dispositif de contrôle de toutes les entrées et sorties de notre pays que nous avons été surpris par l'apparition de l'épidémie au sein du pays. Alors nous avons changé notre contingence vers une lutte interne contre Ebola. Nous avions pris au niveau de tous nos aéroports et de tous nos postes frontaliers, je dois dire, que ce soit aérien ou maritime ou routier, tous les postes frontaliers ont reçu instruction d'établir des postes de contrôle sanitaire. Nous avons à toutes ces portes frontalières, nous avons ce que nous appelons la fiche sanitaire du voyage. Et maintenant que d'autres pays demandent aussi que nous puissions les sécuriser, nous donnons à tous nos passagers qui partent de notre pays presque ce qu'on appelle la fiche de la police sanitaire, déterminant de l'état du voyageur embarquant dans un avion au départ du Congo. Donc à l'arrivée, tout le monde est contrôlé et au départ aussi tout le monde est contrôlé parce qu'il est question que nous puissions sécuriser d'autres pays qui accueillent nos compatriotes.
Voilà, je signale en passant qu'il nous reste au moins de 5 minutes pour terminer l'émission. Docteur Léon Moubikaï, Au sujet de la communication, avez-vous l'impression que en dehors de l'Afrique, en Europe, en Amérique, est-ce que la bonne information circule quand on se rend compte de ce qui s'est passé, par exemple, ici au Congo, les francopholies, une grande rencontre culturelle qui devrait avoir lieu ici, ont été reportées à une date ultérieure. On a par exemple des rencontres sportives qui sont délocalisées. Est-ce qu'ailleurs, en Europe, en Amérique, est-ce qu'ils ont la bonne information concernant Ebola ou c'est la psychose?
Oui, je pense plus que c'est la psychose. Mais tu sais, il y a certaines pathologies dont un seul cas est considéré déjà comme une épidémie. C'est le cas d'Ebola ici. Et quand on vous dit, bon, on dit à un Français qui est à Nantes, là-bas, on lui dit, bon, écoute, il y a une épidémie d'Ebola à Djera. Lui, il estime que Djera, ça peut être comme Nantes et Paris. Donc, il pense que s'il arrive, il y a la circulation abondante et tout ça. Mais je crois qu'avec tout ce qu'on a eu comme mesure de quarantaine, il n'y a pas vraiment à craindre. C'est un peu une psychose. En plus, même, ce qui se passe ici, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, parce que on a découvert que le génome n'est pas le même entre les deux virus, les virus qui se vit en Afrique occidentale et ce que nous avons ici. Donc, j'ai beaucoup plus l'impression que c'est une psychose, mais c'est aussi une psychose fondée. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, on a expatrié une Française parce qu'elle était atteinte sur terrain. Donc c'est normal que les gens se protègent, qu'ils prennent des précautions pour qu'on ne tombe pas qu'on n'amène pas l'épidémie chez soi. Mais en réalité, je pense plus à une psychose, parce qu'ils ne maîtrisent pas les données de notre pays.
Alors, docteur Léon Moubikaï, il faut déjà conclure. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait investir beaucoup d'argent dans la recherche pour trouver un médicament par rapport à ce virus?
Oui, ça c'est un problème sérieux. On a toujours eu des épidémies, les recherches n'ont pas beaucoup avancé, mais vous savez que avec cette épidémie, on a autorisé même les médicaments qui n'étaient pas encore acceptés sur le marché pour être expérimentés. Donc, je crois que le monde est un peu dépassé. Probablement, c'est peut-être une épidémie qui va nous amener à un traitement. Je pense comme ça, parce que ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, avec les États-Unis, avec la France, hier, c'est les États-Unis qui proclamaient qu'on doit avoir, on doit envoyer 3 000 militaires pour construire les centres de traitement. Aujourd'hui, c'est le président français qui déclare qu'on doit envoyer aussi en Guinée les militaires. Je crois que nous sommes sur le point d'avancer plus vite avec la possibilité d'avoir un traitement contre Ebola.
Merci. Docteur Richard, la mobilisation internationale peut-elle faire espérer avoir un traitement contre Ebola d'ici là, comme le dit docteur Moubikaï?
Oui, je crois à ça, parce que tout le monde est en train de craindre la pandémie peut-être des années 2014 jusqu'à la fin du siècle. On est en train de penser à ça. Le siècle passé était dominé par le VIH-Sida. Le siècle que nous sommes en train de consommer peut-être risque d'être le siècle de Ebola. Voilà, c'est ce que je
peux aller. Et en guise de conclusion, docteur, un conseil parce que à tous ceux qui sont en train de nous suivre, parce que cette émission, c'est aussi pour la sensibilisation.
Oui, le conseil, c'est quoi? C'est de suivre les officiels. Ils nous mettent sur la bonne voie. Et aussi, nous ne pouvons pas rester sur nos couches pour continuer à pleurer. Pour moi, voyez le papier que j'avais préparé. Pour moi, Ebola, c'est aussi un problème de la connaissance de la géographie du pays. C'est aussi un problème de l'écotourisme. J'étais en train de voir avec une de fins de sœur qui était maintenant chef de zone là-bas, comment construire un musée Ebola à Lissala. Parce que on parle d'Ebola, Ebola c'est le Congo.
Merci,
c'est aussi
docteur.
Un problème d'écotourisme, etc.
Merci,
je suis en train d'écrire un papier, un document ou un livre. Si Ebola m'était compté.
Merci docteur.
Merci.
Docteur Chaudou, conclusion.
Merci.
Un mot de sensibilisation.
Merci. Je remercie mes deux confrères qui ont appuyé ce que nous faisons. Ils ont raison. Nous faisons du bon travail sur le terrain. Nous sommes effectivement aidés par la nature, mais nous travaillons sérieusement. La nature seule ne peut pas stopper Ebola parce que Djira n'est pas une prison. Les gens voyagent, les gens sortent de Djira avant la quarantaine et donc ils auraient pu emmener l'épidémie ailleurs. Nous pensons que la population devrait suivre tout ce que nous disons parce que nous le faisons pour son propre bénéfice.
Il faut se laver les mains.
Il faut se laver les mains à chaque contact et éviter en ce moment d'Ebola, éviter à se frotter, éviter à se entremêler avec des personnes que vous ne connaissez pas parce que vous ne savez pas d'où ils viennent et qu'est-ce qu'ils portent entre eux.
Merci monsieur d'avoir participé à cette émission. Dialogante Congolais, c'est terminé. Réalisation Guy Maté, mise en onde Mimi Kindou, supervision Martin Sebujangwe, présentation et coordination Alain Hirongo Mouchinge. Merci de votre attention. Au revoir.